Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Retour ce soir sur un duel, Benoît Hamon face à Manuel Valls. C'est entre ces deux candidats que les sympathisants de gauche vont devoir choisir dimanche au second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire, comme on l'appelle. Alors que les deux hommes s'affrontent ce soir à la télévision, que le ton est particulier dans cet entre-deux tours, on y reviendra peut-être, nous avons choisi sur RFI de vous donner la possibilité à vous aussi, qui nous écoutez un peu partout dans le monde, de vous faire une idée des programmes de l'un et de l'autre candidat, car ce sont deux lignes qui s'opposent. D'un côté, celle du frondeur, Benoît Hamon, qui a critiqué la ligne d'un gouvernement qu'il a fini par quitter. De l'autre, celle de Manuel Valls, qui a mis en œuvre en tant que Premier ministre le tournant libéral de François Hollande dans ce quinquennat, un quinquennat qu'il défend. Sur le papier, c'est Benoît Hamon qui partirait favori, fort de ses 36% du premier tour et du ralliement du troisième, Arnaud Montebourg. Manuel Valls, lui, a réuni 31% des suffrage dimanche dernier. Il est donc l'outsider, comme on dit. Alors, qui de Benoît Hamon ou de Manuel Valls saura vous convaincre? C'est notre débat de ce soir.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, deux femmes. C'est à remarquer pour une fois. Bonsoir Sandrine Charnoz.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Benoît Hamon, conseillère de Paris et élue dans le 12e arrondissement de la capitale. En face de vous, Élise Fagelès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Manuel Valls, adjointe au maire du 10e arrondissement, deux élues parisiennes donc. Alors, mesdames, je voudrais, si cela vous convient, qu'on commence par parler emploi. C'est la préoccupation numéro un des Français. Hier, on a eu les chiffres du chômage du mois de décembre, plus 0,8%. Pour le dernier mois de l'année, mais une baisse globale sur 2016. Rappelons que la France compte aujourd'hui un petit peu plus de 3,4 millions d'actifs sans aucune activité. Alors Sandrine Charnoz, Benoît Hamon considère qu'il faut un peu revoir le rapport au travail dans une société où, selon lui, il se raréfie. Il propose donc la mise en place progressive d'un revenu universel d'existence. En quelques mots, en quoi ça consiste et est-ce que c'est finançable, puisque c'est l'un des arguments de la campagne?
Alors en effet, Benoît Hamon porte un constat sur le monde du travail tel qu'il est et tel qu'il sera demain, avec une diminution et une raréfaction de certains types d'emplois, mais aussi une dimension un peu de souffrance ou de difficulté de certaines personnes, et en tout cas d'emploi du temps subi pour la partie de la population qui n'arrive pas forcément à choisir son type d'emploi. Et nous portons également un regard sur notre système de protection sociale qui est attaché au travail et qui petit à petit va être en difficulté de financement si nous n'arrivons pas à repenser tout ça de manière globale. Et il propose ce fameux revenu universel d'existence qui a beaucoup fait parler durant cette primaire à gauche, et c'est déjà un point important pour nous, qui permet de repenser la place du travail, mais également redonner un filet de sécurité à l'ensemble des Françaises et des Français.
Nous, avec un montant qui n'est pas ridicule, plusieurs centaines d'euros. Alors,
il y a deux phases. Une première phase où on réévalue les minima sociaux, RSA notamment, à 600 euros. Première phase qui sera mise en œuvre en 2018 et qui intégrera les jeunes de 16 à 25 ans qui, pour l'instant, sont exclus de tous les minima sociaux. Pourquoi ? D'abord, ces catégories-là, parce que il est absolument scandaleux qu'actuellement un tiers des personnes ayant droit au RSA ne le mettent pas en œuvre faute de capacité à savoir comment faire, et donc c'est normal que ça devienne automatique. C'est un outil de lutte contre la pauvreté. Et pourquoi les jeunes? Parce qu'ils sont actuellement très mal protégés et qu'il est important de mieux les sécuriser dans une difficulté d'insertion sur le marché du travail qui perdure depuis des années. Et il y aura ensuite une conférence citoyenne pour passer à une deuxième phase que nous voulons avant la fin du quinquennat.
Alors, Élise Fagelès, je vous vois avoir envie de réagir. Manuel Valls est très critique sur cette proposition. Alors lui, il soutient aussi une forme de revenu minimal, mais pas du tout de la même manière. Et pour se défendre, pour défendre sa position, plutôt Manuel Valls se présente un petit peu comme le candidat du travail. C'est vraiment une différence de philosophie qui vous oppose?
Oui, c'est deux projets de société différents. Nous ne pensons pas que le travail va disparaître, mais au contraire que le travail va évoluer, et ce qu'il faut, c'est accompagner la mutation du travail. Alors pour cela, déjà, ce qu'il faut, c'est continuer à favoriser les créations d'emplois, à aider les entreprises, mais en effet, en les poussant et en les aidant, les accompagnant dans tout un tas de domaines d'activité.
Comment?
Par exemple, avec des prêts à taux zéro sans remboursement les premières années, avec le fait d'aider les professions indépendantes et commerçants, donc quand on veut changer de carrière, etc. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles formes de travail qui existent, mais pas du tout actées et baisser les bras devant le chômage de masse. Par exemple, Benoît Hamon, qui s'attaque beaucoup, en effet, à la pollution et qui parle d'écologie, mais ce qui est intéressant, c'est que si on veut travailler dans l'écologie, ça veut dire qu'il y a tout un tas d'activités, et c'est dans ces activités-là qu'il faut investir et donc protéger et créer des emplois dans le numérique, dans la transition énergétique, dans l'écologie.
Alors, donc c'est ça la société du travail. Ce qui est intéressant, c'est que là vous dites par exemple aider les entreprises. Dans ce que nous disait tout à l'heure Sandrine Charnot, c'était plutôt aider les salariés ou ceux qui n'ont pas de travail.
Alors est-ce
que là-dessus vous avez aussi un volet peut-être
que... Alors il y a aussi ça. Il y a déjà donc pour ce qui est du revenu minimum décent. Donc déjà la société du travail, faire en sorte que tout le monde puisse se projeter dans une activité professionnelle, parce que c'est ça qui est émancipateur, hein. C'est ça qui ça a toujours été notre marqueur à gauche, qui donne l'émancipation et la dignité. En effet, mutation du travail dans des secteurs nouveaux comme le numérique ou l'énergétique. Après, il y a des gens qui sont en rupture d'activité, tout simplement cassés par la vie. Donc ces gens-là, et c'est aussi un outil de lutte contre la grande pauvreté, c'était la grande idée de François Chérec, c'est de fusionner les minima sociaux pour les gens, mais qui en ont besoin, et ça c'est aussi deux projets de société, c'est-à-dire que les indemnités, la collectivité doit aider ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont vraiment en situation de rupture.
Vous avez un volet aide aux entreprises et un volet aux individus.
Voilà. Mais pas que, parce qu'il faut aussi favoriser la formation tout au long de la vie, et c'est ça aussi le nouveau travail, c'est qu'on le sait qu'il y a des ruptures de carrière et que ça va très très vite.
On ne garde
donc
pas
pour
le même
ça,
travail toute
il faut
sa
formation
vie.
Tout au long de la vie, ça c'est le CPA qui a été prévu dans la loi travail.
Alors j'allais y venir.
Ça. Et c'est aussi, et Emmanuel Valls le propose très clairement, il faut pouvoir acquérir une qualification tous les 10 ans pour justement accompagner ce travail et les changements dans la vie, etc. Donc alors, c'est plutôt vers ça qu'on doit aller, c'est vers l'émancipation via du travail nouveau, mais via une formation tout au long de la vie.
Sandrine Charnoz, est-ce que Benoît Hamon n'a rien prévu pour les entreprises? Vous allez me dire non, évidemment.
Non, bien évidemment, et surtout je pense que cette distinction entre un candidat qui serait le candidat du travail et un candidat qui serait le candidat du farniente, comme je l'ai entendu dans la bouche de Manuel Valls, est vraiment erronée. La volonté de mettre ce revenu universel d'existence, c'est aussi au-delà de l'outil de lutte contre la pauvreté, c'est aussi un moyen d'aider l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Nous avons plein de gens autour de nous qui ont des idées, qui ont une richesse et un potentiel et qui n'osent pas se lancer parce qu'ils savent que récupérer une activité derrière sera très compliqué. Donc le revenu universel d'existence est aussi un outil pour permettre de libérer à un moment donné les énergies créatives. Donc ça accompagne aussi la création et le développement d'activités.
Voilà. Et c'est le sens du CPA, hein. C'est le sens du compte personnel d'activité, de permettre justement de changer de carrière,
le CPA,
ou de s'assurer.
Le CPA ne marche que quand on a eu un emploi.
L'intérêt du revenu de minimum, donc, c'est de pouvoir, en effet, pouvoir parer au coût de la vie quand on ne travaille pas, quand on ne peut pas se projeter dans un projet professionnel ou dans une formation. Et puis, quand on commence à travailler et accumuler des points, effectivement, on peut, en effet, parer à toute rupture ou toute volonté de changer de carrière.
Je crois qu'on a bien compris, mais l'heure passe, je crois qu'on a bien compris sur l'emploi.
Après,
votre désaccord, qui se manifeste aussi dans votre désaccord sur la loi travail dont on vient un petit peu de parler. Je rappelle que, évidemment, Manuel Valls la défend puisqu'elle a été votée sous son quinquennat, y compris avec le 49.3 qu'il propose de supprimer, et que vous, dans le camp de Benoît Hamon, vous voulez l'abrogation de cette loi. On va passer au programme sur l'environnement. On a déjà parlé un petit peu, c'est un sujet fondamental d'actualité avec le pic de pollution que subit la moitié nord de la France depuis quelques jours. Alors, vos deux candidats sont d'accord sur le maintien de l'interdiction des gaz de schiste, sur un plan de rénovation énergétique, sur la réduction de la dépendance aussi au nucléaire. Alors, il y a des désaccords sur ce plan-là. Exemple sur la fiscalité écologique, pour Manuel Valls, c'est non. Pourquoi ?
Parce qu'il ne faut pas de fiscalité qui soit punitive. En fait, on voit bien que sur l'écologie, que ce soit les ménages, ou voire les ménages les plus modestes, que ce soit les entreprises, si la fiscalité est perçue comme punitive, ça n'est pas une écologie qui est partagée par tous et qui est consentie par tous.
Donc c'est plutôt une question de méthode.
Oui, et par exemple, quand on parlait justement de nouveaux pans d'activité, ce qu'il faut, c'est aider les entrepreneurs à investir dans les transports propres, dans la voiture propre. Ça, c'est vraiment du travail d'avenir, et c'est vraiment aider. En fait, la notion d'écologie, elle est transverse et elle est dans produire mieux et produire différemment.
Alors là-dessus,
mais pas punir forcément les entrepreneurs.
Sandrine Charneux, sur la fiscalité écologique, pourquoi est-ce que vous y êtes favorable?
Nous pensons que nous sommes à un moment extrêmement grave et que si nous continuons comme ça, la planète, n'en survivra pas et que surtout nous ne pouvons plus continuer à vivre avec un tel niveau de pollution. Les enfants actuellement, là, ne peuvent plus faire de sport à Paris. Ça arrive plusieurs fois par jour. Ça arrive dans les grandes villes. Nous avons énormément de morts liées à la pollution, 50 000 par an. Ça devient un fléau et donc il faut agir vite. Et pour agir vite, il faut investir et il faut du coup financer une transition écologique et surtout que tout le monde comprenne la pertinence et l'enjeu. Mais quand on parle de fiscalité, c'est pas simplement augmenter les impôts, c'est aussi changer de politique. Pourquoi nous sommes arrivés à un tel niveau de présence de diesel dans notre environnement? C'est parce que la fiscalité française était favorable au diesel. Donc quand on parle de fiscalité écologique, c'est à la fois aussi revenir sur des mesures qui ne sont pas compatibles avec notre environnement.
Alors, est-ce que vous diriez toutes les deux que l'urgence écologique est partagée par vos deux camps, mais qu'après, c'est la manière d'y répondre qui n'est pas la même?
Oui, bien entendu. Bien entendu, Manuel Valls, évidemment, parle beaucoup. Il a beaucoup aidé, notamment, il a accompagné la loi sur la biodiversité. Et puis, il a été le premier ministre de l'accord sur la COP21. Donc, évidemment que c'est une préoccupation. Mais pour lui, il s'agit d'accompagner les entreprises vers une production plus propre, vers un transport plus propre. Voilà. Et pour que cette écologie soit partagée et qu'elle soit justement cet avenir et qui accompagne le travail et la mutation de travail. Tout est cohérent dans ce
Sandrine
projet.
Charnot, je pense qu'il y a une différence de philosophie ou pas?
Ah, vraiment. Je pense que, d'ailleurs, Benoît Hamon l'a dit, il ne sera jamais plus socialiste sans être écologique. Pour nous, c'est une priorité, une urgence. C'est surtout peut-être une méthode différente, mais aussi un braquet différent. Je pense que Benoît Hamon a compris réellement la nécessité de changer d'échelle dans la lutte contre la pollution et contre les dangers quotidiens, comme le sont les pesticides, comme le sont les perturbateurs endocriniens, parce que ça aussi, c'est un sujet qui nous touche tous les jours.
Je ne crois pas que Manuel Valls ne l'ait pas compris. En effet, pour moi, c'est plus une méthode différente, mais la philosophie est tout à fait partagée. Et en effet, il fait aussi une priorité de la santé environnementale, et notamment quand on investit beaucoup dans la santé, c'est encore un pan d'activité dans lequel je ne vois pas comment il pourrait ne plus y avoir de travail. Donc et la santé, le domaine de la santé doit évoluer pour meilleure prise en compte de la santé environnementale. Ça, c'est vraiment dans le programme de Manuel Valls.
Alors, nous sommes sur Radio France Internationale. Alors, évidemment, je voudrais qu'on touche aussi aux sujets internationaux, notamment à l'Europe. Vos deux candidats ont chacun leur vision pour l'Europe. Ils ont d'ailleurs voté différemment lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. C'était en 2005, ça date, mais c'est important aussi dans l'histoire de la gauche. Manuel Valls s'était prononcé pour le oui, Benoît Hamon pour le non. Élise Fageles, la vision européenne de Manuel Valls, elle est dans la prolongation de celle de François Hollande. Il faut maintenir les déficits sous la barre de 3% du PIB. C'est une règle demandée par Bruxelles. Que répondez-vous à ceux qui vous disent d'accord, mais ça c'est l'austérité et ça marche pas en Europe?
Alors déjà, on a réussi sous ce quinquennat à rétablir les comptes et arriver à un déficit de 3% sans politique d'austérité, puisqu'on a quand même embauché dans l'éducation nationale 60 000 personnes comme on ne l'avait jamais fait. On a réembauché également dans les forces de sécurité et on le voit bien, nous, en tant qu'élus parisiennes, comme c'est important sur le terrain de voir des policiers revenir sur le terrain alors qu'ils avaient été sacrifiés sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc c'est possible d'avoir un sérieux budgétaire sans politique d'austérité. Néanmoins, il y a quand même une différence. C'est que ce que dit Manuel Valls, c'est qu'il voit bien que l'Europe n'est plus partagée. Le récit européen n'est plus partagé. On partage tous des valeurs humanistes, des valeurs de paix, mais les gens ne se sentent plus protégés. Et c'est le cas en France, mais c'est le cas, on le voit bien, c'est le Brexit, c'est en Europe. Les gens ne se sentent plus ni concernés, ni protégés. Donc à un moment donné, il faut quand même refonder cette Europe. On a besoin d'une Europe pour avancer, parce que tout seul, on va droit dans le mur. Mais par contre, il faut la clarifier. Et donc c'est pour ça qu'il demande une conférence
de refondation. Là, vous êtes d'accord que les choses
recentrer sur la défense, sur des secteurs vraiment très structurants, sur des projets d'investissement, mais qui soient marqueurs vraiment de l'Europe, pour que chacun puisse comprendre où va l'Europe et puisse se réapproprier ce discours européen. C'est le seul moyen de reprendre notre destin européen, en effet.
Sandrine Charnoz, alors il a une vision aux antipodes, hein, Benoît Hamon, puisqu'il veut réformer en profondeur avec un moratoire sur le pacte de stabilité, ce sont ses mots, et lui dit l'austérité est inefficace. Là-dessus, il n'est pas d'accord
exactement.
Avec Manuel Valls.
C'est-à-dire que afficher, et d'ailleurs je crois que c'est pas Benoît Hamon qui l'a dit, mais même un soutien de Manuel Valls, on peut vivre avec 3% de déficit, mais absolument pas avec 3 degrés de de plus. Donc il faut que vraiment l'Europe soit au rendez-vous pour nous accompagner sur la transition énergétique. Donc il faut qu'elle investisse, qu'elle ait un budget et qu'elle puisse nous aider sur la problématique des dettes. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas l'Europe en tant que telle qui doit être un objectif absolu, mais bien l'Europe sociale et l'Europe au rendez-vous de nos valeurs. Et je pense que c'est peut-être une grande différence qu'il y a. Et nous pensons que l'Europe arrive à mettre des sanctions et à taper les pays qui ne respectent pas les 3%. En revanche, quand il s'agit de se répartir les migrants, elle n'est pas au rendez-vous. Et là, l'Europe faillit. Et il est vraiment temps que l'Europe soit au rendez-vous pour porter un projet qui est un projet social avec une harmonisation fiscale. Il faut que nous arrêtions de nous faire la guerre entre nous. Nous perdons chaque année 83 milliards d'optimisation fiscale, très souvent à l'intérieur de l'Europe. Nous perdons 80 milliards de fraude fiscale. Il faut que l'Europe nous aide à mettre des barrières sociales et environnementales à nos frontières et évite que l'on se batte entre nous. C'est face à l'Amérique de Trump, face à la Russie, face à des pays qui sont
d'abord recréer une cohésion avec une certaine vision. Vous parliez tout à l'heure, on peut être dans le même esprit, sauf que au long terme, c'est-à-dire que par exemple protéger, Manuel Valls propose que soit taxé tous les produits qui rentrent en violation de nos normes sociales ou environnementales. Donc en effet, il faut protéger nos secteurs d'investissement, toutes nos règles sociales et environnementales. Ça, c'est absolument nécessaire. La refondation,
Jean-Luc Mélenchon le dit aussi.
Mais on peut être d'accord sur l'idée qu'il faut retrouver un sens à l'Europe, et notamment sur l'environnement, sur le social, et puis une Europe politique et une Europe de la défense. On sait bien que ça a fait défaut.
Et
ça,
sur l'immigration, qui est aussi un sujet qui...
On a besoin d'Europe. Et ce qu'il faut, ça n'est pas mettre un frein et punir l'Europe, c'est au contraire redonner confiance. Donc redonner du sens et redonner confiance dans l'Europe pour poursuivre ce chemin européen.
Mais l'Europe est punitive. Vraiment. Et ce qu'il faut, au-delà de ces besoins de barrières, il faut afficher clairement un arrêt de concurrence entre les pays. Ça passe par une harmonisation fiscale, ça passe par un budget européen et ça passe surtout par un serpent social avec un service minimum pour éviter la concurrence entre pays européens.
Et sur l'immigration, parce que c'est un dossier qui intéresse beaucoup nos auditeurs, vous dites visa humanitaire, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que l'on arrête de financer des passeurs, que l'on arrête de voir mourir des gens en mer. Ça permet aux personnes de venir et d'être accueillies en Europe et que leur dossier soit examiné. Et surtout, ça permet une meilleure répartition des migrants. Nous faisons payer aux pays les plus en difficulté de l'Europe l'accueil des migrants à l'heure actuelle, c'est-à-dire la Grèce et l'Italie. Il faut que l'Europe soit
vraiment
au rendez-vous de ses valeurs.
Être absolument exemplaire dans déjà le respect du droit d'asile, parce que je pense que c'est déjà la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'on a un droit d'asile et qu'il faut vraiment l'appliquer de manière humaine et de manière maîtrisée.
C'est le cas aujourd'hui en France ?
Tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués, mais par exemple, quand on évoque le sujet syrien, il y a eu une discussion avec l'Allemagne pour avoir une répartition. L'Allemagne s'était engagée à des choses, mais elle est revenue aussi. Angela Merkel est revenue sur sa politique au départ.
Il n'y a pas eu que des Syriens,
parce que moi-même qui suis élue dans le 10e, je sais très bien que la plupart des demandeurs d'asile ne sont pas syriens. Ceux qui sont sur l'espace public parisien sont des Érythréens, des Soudanais ou des Afghans. Et il y a 40 000 personnes qui ont été accueillies dans les derniers 18 mois, où il y a eu des propositions d'hébergement, des prises en compte au titre de la demande d'asile, avec des propositions d'Emmanuel Coss, qui est ministre du Logement, qui est de Bernard Cazeneuve, donc ministre de l'Intérieur, sous évidemment Manuel Valls lorsqu'il était à Matignon. Donc il y a eu une vraie prise en charge de nombreux demandeurs d'asile sur le territoire français.
Alors,
il y a quand même eu des engagements de la France
minute,
qui ont été tenus de ce point de vue.
Il ne reste plus qu'une minute. Je pense que ce qui est très clair pour les auditeurs qui viennent de nous entendre, c'est que vous avez quand même beaucoup de points de divergence. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dimanche soir? On ne cesse de poser la question à Manuel Valls et à Benoît Hamon qui sont pas forcément très très clairs.
Benoît Hamon suivra
Manuel Valls si c'est Manuel Valls qui l'emporte dimanche. Vous dites oui. Dans l'autre cas.
Bien sûr, Manuel Valls a toujours respecté les règles du jeu du parti. Il n'y a pas de problème.
Écoutez, voilà, au moins ce sera très simple et on terminera donc sur un accord. Merci beaucoup, mesdames. Sandrine Charnoz, porte-parole de Benoît Hamon, conseillère de Paris et élue du 12e arrondissement. Élise Fagès, porte-parole de Manuel Valls, adjointe au maire du 10e arrondissement. Merci à Florence Ponce, à Antonin Dulay. On se retrouve demain pour un nouveau débat sur RFI. Merci.
Pour nous écrire, RFI. 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.